Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi et dernière partie spéciale aujourd'hui puisqu'on a un invité, c'est Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative en France. Bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour Estelle Denis.
Et merci d'avoir accepté notre invitation autour de la table. Thibaut Texer, Daniel Riolo, Emmanuel Dancourt et Thierry Moreau, ils ont tous plein de questions à vous poser sur toute l'actualité. Et l'actualité, elle est très riche en ce moment déjà. Ouais. Je remarque que vous n'êtes pas venu en col roulé, comment c'est la mode au gouvernement?
Pas tous les jours.
Vous n'avez pas des petites astuces pour faire des économies d'énergie? Parce que là encore, hier, on nous a dit qu'il fallait plus se servir d'un sèche-linge, mais d'un étendoir. Ouais. Est-ce que vous aussi, vous avez une astuce à nous donner?
Écoutez, non, j'ai pas. En fait, vous savez, ma réponse va être longue. J'ai eu la chance d'être ministre du premier au dernier jour du premier quinquennat. Et j'ai compris aussi qu'il y avait des choses qui, parfois, peuvent énerver les gens. Mmh. Et notamment quand les membres du gouvernement leur disent quoi faire dans leur vie quotidienne, même si c'est pas ce qu'a fait Bruno Le Maire, en l'occurrence. Hein. Lui, il donnait cet exemple. Et je pense que l'exemple et l'inspiration peuvent être très importantes dans les comportements. Mais je vais pas là dire aux Français, vous devez faire ci ou ça dans votre vie quotidienne. Voilà. Mmh.
Et puis il y a des sujets bien sûr beaucoup plus importants. Le premier sujet, c'est la réforme des retraites, notamment. Hier, il y a eu une réunion. Pas de passage en force, pas de 49-3. Emmanuel Macron souhaite de la concertation avec les partenaires sociaux. Mais comment est-ce que vous allez faire pour discuter, puisque manifestement, les partenaires sociaux n'ont pas du tout envie de discuter?
Ah bah c'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. C'est vrai que pour discuter, il faut être deux pour dialoguer. Mais là, le président de la République avec la première ministre Elisabeth Borne ont dit qu'ils voulaient poser une méthode de concertation. Moi, j'observe qu'il y a déjà eu pas mal de dialogue engagé par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui a reçu les partenaires sociaux qui sont venus à sa table. Et je pense que c'est une bonne chose qu'enfin on commence à parler du quoi avant de parler du comment dans cette réforme. Mmh. Avant de se dire comment on fait la transformation des retraites, de se dire qu'est-ce qu'on transforme? Comment on agit pour ceux qui ont des carrières pénibles, des carrières hachées, les femmes, pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui sous le seuil de pauvreté? Comment on fait en sorte, exactement, comment on fait en sorte que chacun puisse avoir une retraite digne et avec un niveau de rémunération qui soit correct? C'est ça la vraie question.
Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on parle du fond, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la forme sur ce sujet, Daniel Riolo.
Oui, tout à l'heure, Thierry Moreau en parlait. Il disait qu'on n'explique peut-être pas assez tout ce qu'il y a à l'intérieur, ce que vous venez de faire, le détail. Et on reste un petit peu bloqué sur l'âge de départ. Donc, qu'est-ce que c'est? Il va falloir faire une sorte de cours d'entreprise de communication pour dire tous les détails. Et au final, et c'est plutôt là-dessus que j'ai envie de vous poser une question, parce que au terme de la fameuse réunion dont vous venez de parler, visiblement, la dissolution a été évoquée.
C'est ça. Alors
mais dissolution, ça veut dire quoi? Parce que si c'est pour, en gros, je dissous et puis finalement, si on est réélu, c'est que vous voulez la réforme. Dans ce cas-là, on fait un référendum, non?
Mais la question, alors moi, j'étais pas à cette réunion, j'ai entendu les propos rapportés, je suis toujours un peu méfiante des propos rapportés.
C'est Olivier Dussopt qui a dit ce matin qu'en fait.
Alors, je suis pas méfiante d'Olivier Dussopt.
On n'excluait pas une dissolution en cas de censure à l'Assemblée nationale.
Alors, on est dans beaucoup de si, et c'est-à-dire que les oppositions brandissent la menace d'une motion de censure. Donc, le président de la République rappelle que constitutionnellement, il a le droit, dans ces cas-là, de dissoudre. Et pourquoi? Pas pour faire un acte d'autorité, mais au contraire, pour dire, moi, j'ai besoin d'avoir un Parlement qui se réunit, qui vote des administrations, qui travaille, un gouvernement qui agit. S'il y a un blocage à l'Assemblée nationale, au Parlement, ça veut dire que tout ça, on ne peut pas le faire, qu'on ne peut rien voter, qu'on reste bloqué. Et je donne un exemple en ce qui concerne les questions liées à l'énergie, par exemple, que vous évoquiez tout à l'heure. Au-delà de la boutade sur les sèches-linges, etc., on a vraiment besoin que les projets de loi puissent passer, que le travail fait par la ministre de la Transition énergétique puisse trouver une concrétisation dans la loi, qu'on travaille sur la question des prix, sur la question des rapports internationaux qu'on a sur ces questions de gaz, électricité. Et ça
oui,
passe
là,
par le Parlement.
Point. Peut-être que les Français peuvent approuver d'autres points de la politique globale, mais sur ce point-là, c'est totalement inenvisageable de faire un référendum plutôt que de dire même si ça n'a pas été dit par le président directement, mais par un de ses ministres. Bon, ben on va dissoudre et puis comme ça, on verra bien qui nous suit ou qui nous suit pas pour faire passer la réforme.
Si, si, vous avez raison, mais la question, là, le président a pas dit, en gros, si on trouve pas d'accord sur la retraite, je vais dissoudre. Il parle de la motion de censure. Ouais. Donc, il dit que si toutes les oppositions se mettent ensemble, ça voudrait dire, par exemple, que le PS voterait avec le Rassemblement National, qui lui-même voterait avec la France Insoumise. Bref, si toutes les oppositions s'allient pour voter une motion de censure contre le gouvernement, en fait, le gouvernement ne peut plus agir. Donc, le président de la République, dans ce cas-là, aurait dit, si j'ai bien compris, que dans ces cas-là, il prendra la décision de dissoudre pour qu'il y ait une nouvelle élection, que les Français soient rappelés aux urnes.
La dernière fois, c'est pas très bien passé.
Repasser. Mais moi, je pense que l'idée, c'est qu'on puisse être constructif. Mais comme vous l'avez rappelé, pour être constructif, il faut être deux. Donc, que les oppositions s'opposent, c'est normal, j'ai envie de dire, elles sont dans leur rôle démocratique. Mais il y a une opposition constructive qui peut exister en disant on partage le fait qu'il y a des grands enjeux pour les Français et que les Français, pardon, mais s'en fichent un peu de savoir.
LR devrait être avec vous, puisque LR avait dans son programme également une réforme qui était similaire à celle-là.
Sur les questions de sobriété, il y a une grande partie de la gauche qui pourrait soutenir l'action qui est menée par le gouvernement aussi.
Alors aujourd'hui, il y a un appel à la grève générale lancé par la CGT. Bon, ça semble pas bien marcher. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une énorme mobilisation. Ouais. Cette grève générale, elle est pour la hausse des salaires. Bruno Le Maire a demandé au patron, justement, d'augmenter les salaires. Vous, vous êtes secrétaire d'État chargé de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que ça, c'est pas la priorité aujourd'hui en France? Et puis, c'est aussi votre dossier, ça. Est-ce que vous, concrètement, vous pouvez pousser les patrons à augmenter les salaires? Aujourd'hui, les Français en ont marre de pas pouvoir vivre dignement de leur travail, en fait.
Oui, alors il y a plusieurs choses différentes à distinguer. D'abord la responsabilité de chacun. Et je le redis parce que j'ai beaucoup constaté que parfois on s'adressait à l'État pour des sujets qui ne dépendent pas de l'État. Sur les augmentations de salaire en dehors de la fonction publique, il y a des entreprises, il y a des employeurs et donc c'est dans le dialogue, dans les conventions collectives et dans les discussions individuelles que les augmentations sont décidées.
C'est au gré à gré,
en revanche... Bah, en fait, on n'est pas dans une économie étatisée, oui. Donc oui, c'est pas l'État qui va aller voir BFM pour dire maintenant tout le monde ou RMC pour dire tout le monde doit être augmenté.
Si, ça c'est bien,
Je peux essayer si vous voulez, il y a pas de souci. Mais je suis pas sûre d'y arriver, très honnêtement, ou d'être entendue, même si bien sûr que ce serait tout à fait nécessaire. Mais blague à part, oui, nous par exemple dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, avec le ministre Combe chargé des solidarités, on a décidé d'aligner l'augmentation dans le secteur associatif sur le sanitaire et social. Sur l'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires. Parce que sinon, il y avait une disparité entre ceux qui relevaient de la fonction publique et ceux qui travaillaient dans le secteur associatif. Donc ça, c'est un exemple. Ce sera financé par l'État, les collectivités, la sécurité sociale. C'est un gros engagement financier. Là, on a la main. Mais il y a des sujets sur lesquels, effectivement, c'est du dialogue interne aux entreprises et aux structures.
Vous avez quand même un petit peu la main parce que vous avez des leviers incitatifs. Vous pourriez, par exemple, préconiser des allègements de charges pour ceux qui embauchent un senior, pour ceux qui embauchent un jeune, pour ceux qui embauchent quelqu'un qui est en chômage de longue durée. Il y a les territoires zéro chômage de longue durée qui fonctionnent très très bien.
Exactement.
Donc il y a des dispositifs. Donc même si vous n'avez pas la main, il peut y avoir des incitations.
Bah, vous avez raison.
Réduire encore plus les charges, notamment pour les PMI-PME, pour qu'elles puissent embaucher des jeunes ou des seniors.
Alors d'abord, moi j'observe qu'aujourd'hui, la question, c'est pas tant l'embauche, puisqu'on est aujourd'hui dans un marché du travail en tension, mais pour la première fois depuis très longtemps, en tension à la faveur des personnes qui recherchent du travail, puisqu'on a un taux de chômage historiquement bas, et vous avez des pans entiers de l'économie, et ceux qui vous écoutent le savent bien, qui n'arrivent pas à recruter. Je pense à l'hôtellerie-restauration, je pense au secteur du transport.
Le BTP.
Le BTP, absolument.
Les métiers difficiles, en fait.
Les métiers difficiles, mais aussi même maintenant des métiers du secteur tertiaire qui nous disent qu'ils arrivent moins à recruter des jeunes diplômés sur des métiers pour lesquels il faut s'engager. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas tant ça la problématique que la problématique de recrutement. Et moi, tous les jours, j'ai des entreprises et même dans le secteur de l'ESS qui me disent je veux embaucher et comment je peux faire, comment je peux être plus attractif, comment les jeunes peuvent avoir envie de venir travailler dans mon entreprise. C'est surtout ça l'enjeu à l'heure actuelle.
Alors l'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire, mais concrètement, vous faites quoi en fait pour ça, mais pour ces gens qui veulent recruter, qu'est-ce que vous pouvez faire?
Alors nous, on peut d'abord les mettre en avant, puisque vous avez raison de rappeler, l'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. C'est un secteur qui gagne à être connu et qui répond justement à toutes ces questions de sens. Aujourd'hui, par exemple, c'est la journée mondiale contre le gaspillage alimentaire. Ouais. Moi, je voulais mettre aujourd'hui à l'honneur une société qui s'appelle Phoenix, qui a été créée par Jean
Meuret. On en a parlé il y a 5 minutes.
Voilà, bah, génial. Et avec qui j'ai traversé tout le circuit. En fait, c'est très ingénieux. Il va chercher les invendus dans les magasins. Il les livre, il les amène à l'Armée du Salut, au Emmaüs, à des grandes associations qui ensuite les donnent bénévolement bénévolement, il y a des bénévoles qui s'engagent, qui font les colis et qui les donnent à des familles dans le besoin. C'est hyper important parce que c'est vraiment le trait d'union entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez. Et ça, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et qui mérite d'être mieux connue pour que les jeunes aient envie de s'engager dans ces boîtes qui ont du sens, en fait.
Oui, mais alors, ça, je comprends pas. Ça va la faire connaître, mais on va créer des emplois.
Alors, il y a des emplois qui sont créés, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Et l'idée pour nous, c'est faire en sorte que des jeunes diplômés se disent « j'ai pas à choisir entre aller faire une belle carrière intéressante dans une entreprise et trouver un métier qui a du sens », puisque c'est ce que disent les jeunes générations. Elles disent « nous, on veut avant tout du sens ». Vous avez tous eu les discours de grands diplômés de très grandes écoles qui disent « ok, on est hyper qualifiés, mais en fait, on veut avant tout du sens et avant tout être utile à la société ». Donc tout ça, c'est un courant d'entreprise avec les sociétés à mission, avec lesquelles j'ai été hier, avec Emery Jacquial, président de la CAMIF. C'est, par exemple, la CAMIF, c'est un site qui s'est engagé, et s'engager, c'est aussi savoir dire non. Il dit non à des promotions, il dit non à des clients, il ne fait pas le Black Friday, il ferme son site pour ces jours-là en disant « moi, je veux être fabriqué en France ou en Europe, je veux respecter mes fournisseurs. »
Oui, mais ça ne répond pas beaucoup à la question de Thierry, ça.
En fait, moi, ce que je trouve dans la question de Thierry, et sauf son respect, parce que j'aime beaucoup Thierry Moreau, mais je trouve que la question, c'est pas la question d'aujourd'hui que posent les gens qui veulent recruter. Aujourd'hui, il y a une tension sur le marché du travail et on a du mal à recruter. Donc, c'est pas une question de création d'emplois. Les emplois, ils sont là. Il y a des emplois non pourvus aujourd'hui en France. La question, c'est le recrutement plus que cette création.
Voilà, et changer peut-être les rythmes de travail, les salaires, etc. Justement, on parlait des jeunes qui sont en quête de sens. On parle de la création d'un diplôme de bénévolat. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Et ça apporterait quoi, en fait?
Exactement. L'idée, c'est de faire une VAE bénévole. Je sais pas
c'est
si.
Quoi une VAE?
Alors, peut-être dans les gens qui vous écoutent ou autour de la table, certains ont fait une VAE. Voilà, une validation des acquis de l'expérience. Moi, j'en ai fait une quand j'avais ma fille sous le bras et j'avais créé une association, une petite entreprise. En fait, ça veut dire que vous avez eu la pratique avant la théorie. C'est pour tous les autodidactes qui n'ont pas forcément eu de diplôme dans le secteur dans lequel ils exercent, qui ont travaillé et qui font ensuite une VAE et qui obtiennent un diplôme. Donc, nous, on crée une plateforme avec l'ensemble des acteurs du monde associatif, une plateforme de VAE bénévole qui vous permet de répondre à quelques questions et de dire à quel diplôme vous pouvez prétendre. Parce que je le déplore, mais on est quand même encore dans une société du diplôme où c'est encore quand même quelque chose que vous devez mettre sur votre CV.
C'est bien malheureux.
Et qu'on vous demande.
Pourquoi? Je comprends pas pourquoi c'est malheureux.
Enfin, c'est malheureux.
On n'est plus dans une société où on va à l'école pour avoir des diplômes et le mérite d'avoir un diplôme.
L'expérience aujourd'hui ne rappelle pas.
La première étape, c'est le diplôme. L'expérience, elle se fait après, non?
Oui, sauf que quand, comme moi, par exemple, je n'ai fait que 2 ans d'études, dont j'ai un petit diplôme à DUT et que j'ai derrière 20 ans d'expérience professionnelle en management.
Mais toi, aujourd'hui, tu mets en avant ton expérience.
Mais vous pourriez faire une VAE, vous auriez un master 2 des artisans de journalisme.
Exactement. Alors, on parle des bénévoles et il y a un problème de bénévoles pour les JO 2024. Ça approche,
oui, c'est
quand
vrai.
Même. Là, on est à moins de 2 ans. Bon, il y a d'autres problèmes sur les JO, mais manque de bénévoles. Qu'est-ce qu'on fait pour les recruter? Parce que déjà, qu'il y aura on se demande s'il y aura des transports. On ne sait pas s'il y aura de la sécurité. Alors, si en plus, il n'y a plus de bénévoles, qu'est-ce qu'on fait?
Bon, il y aura de la sécurité et des transports. Alors, ma collègue Amélie Oudéa-Castéra, elle est mobilisée. Il y a un préfet, Michel Cadeau, interministériel, délégué interministériel, qui est mobilisé aussi. Moi, j'étais la semaine dernière avec Tony Estanguet et toute son équipe, justement en Seine-Saint-Denis, au siège du comité d'organisation des Jeux Olympiques, et on a échangé sur cette question. Il y a eu une campagne qui sera lancée pour recruter des bénévoles, et nous, avec ma collègue la ministre des Sports, on se mobilise, y compris dans le cadre de la billetterie populaire. Vous savez, c'est le président de la République qui a voulu faire en sorte que l'État achète des billets pour les Jeux Olympiques, pour en réserver une partie à des scolaires, des élèves. Il y a presque un peu plus de 100 000 billets qui vont être donnés à des bénévoles particulièrement engagés dans l'organisation des Jeux Olympiques.
Donc c'est un échange. Ils viennent bosser gratuitement en étant bénévoles, mais en échange, ils ont des billets.
Alors moi, je vois pas le bénévolat comme ça. Pour moi, c'est pas juste bosser gratuitement, c'est un engagement. C'est des gens qui sont passionnés par ces sujets, qui ont envie de participer à cette grande aventure. C'est quand même un énorme rendez-vous, les Jeux Olympiques, et qu'on les organise à Paris, ça arrivera pas chaque année, ni même tous les 4 ans.
Ça arrivera.
Par définition, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'être partie prenante de ce grand événement et de venir s'engager. C'est aussi tous ceux qui sont dans les clubs, les associations, et avec la ministre, avec Tony Estanguet, on est vraiment mobilisés pour faire en sorte que ce soit aussi, j'ai envie de dire, les associations locales de terrain, les clubs sportifs.
Et si on ne les trouve pas, parce qu'on a du mal à en trouver.
Il en manque 70 000, comment vous l'expliquez quand même? Parce qu'on en a beaucoup parlé.
Parce qu'on ne veut plus faire.
Le bénévolat. On est au début, en fait. Ça veut dire que c'est un engagement à prendre maintenant. On disait tout à l'heure, on est dans une société où les gens ont de moins en moins envie de s'engager à long terme, à tous les niveaux. Et donc, c'est un engagement là à commencer à réfléchir maintenant pour 2024.
C'est vrai
que c'est un engagement. Mais moi, j'ai tout à fait confiance dans Tony Estanguet et son équipe qui ont préparé, y compris une formation pour les bénévoles. un sujet sur le travail d'équipe, pour être mobilisés ensemble et puis pour partager ce bel événement et en faire une réussite.
Donc
moi,
sécurité.
J'ai confiance.
Voilà, c'est ça, on est sûr que ça va être un bel événement.
Dans les stades de foot, on ne trouve plus du tout de gens pour travailler dans la sécurité parce qu'ils sont mal formés, mal payés. On a vu les incidents.
Mais là, on parle de bénévolat, donc il n'y a pas de paye.
En plus, mais déjà, ne serait-ce que pour la sécurité, parce que c'est un gros problème, on ne trouve plus d'agents pour faire ce métier-là. En trois ans, comment on va créer des vocations? Parce que si on a des incidents comme au Stade de France où le gouvernement nous a objectivement menti, si ça se reproduit pendant les JO, ça peut être un problème un peu gravissime quand même.
Bah, vous avez raison, c'est un énorme sujet, la question de la sécurité, et c'est, je dirais même, le préalable. Et en plus, il y a un pari de la part de l'organisation des Jeux Olympiques de faire une cérémonie d'ouverture un peu différente, commune Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, en dehors d'un stade, pour qu'elle profite justement à toutes et à tous. C'est des jeux qui sont multisites. Le surf, ce sera en Polynésie française, par exemple. Donc, il y a vraiment des sites multiples à sécuriser. Donc là, il y a vraiment un travail d'équipe. D'abord, du comité d'organisation que j'évoquais tout à l'heure. On a longuement échangé sur la sécurité. Enfin, avant, j'étais au ministère de l'Intérieur, donc c'est un sujet que je connais un peu. Et on a échangé sur la manière de faire du sourcing, d'identifier justement les personnels de sécurité, de passer par différentes organisations en étant sûr qu'il n'y ait pas, par exemple, un agent de sécurité recensé deux fois dans deux agences différentes, ce qui peut créer des problèmes. C'est des petites choses un peu subtiles, mais sur lesquelles ils sont mobilisés. La ministre des Sports est pleinement mobilisée, Amélie Oudéa-Castéra, avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Ils ont des comités de suivi. Donc il y a vraiment toute une équipe de France sur l'organisation des Jeux Olympiques qui est vraiment sur le ballon, si vous me pardonnez la métaphore, et qui est en train de travailler.
Mais vous comprenez qu'on peut avoir les jetons après ce qui s'est passé au Stade de France et les mensonges qui ont été avancés.
Moi,
après,
vous savez, je ne veux pas faire de polémique sur ce sujet. J'ai vu les dernières informations à cet égard et le fait que le traumatisme d'être dans un stade où il y a des bousculades.
On conduit deux personnes au suicide.
Exactement, c'est à ça que je fais référence.
Le ministre de l'Intérieur a encore jamais dit que vous avez menti ce soir-là.
Non, mais moi, je dis, je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, je suis originaire de Corse. On est marqué en Corse par le drame de Fouriagne et je sais à quel point un événement sportif, hélas, comme tout événement d'ailleurs, peut à tout moment avoir des conséquences dramatiques. Donc la sécurité, croyez-moi, tout le monde est mobilisé dessus et le ministre de l'Intérieur en premier lieu.
Emmanuel Dancourt.
Je voudrais juste redonner un tout petit peu de légèreté. J'ai pas pensé une seconde à proposer à mes enfants d'être bénévoles à Paris. J'aurai une fille dans deux ans, elle aura 22 ans, les jumeaux, ils auront 18 ans, donc ils pourraient l'être. Mais nous, on est à Dijon. Et spontanément, on se dit pas que les enfants ils vont être bénévoles à Paris, quoi. Donc comment ça se passe? Il y a des bénévoles qui viennent d'ailleurs,
Alors Dijon,
pays,
c'est
d'ailleurs.
Pas si loin. Moi, j'étais au collège Carnot à Dijon. Mais non, c'est à 1h40. Ah bah
mais
voilà. Écoutez, vous voulez saluer de ma part. C'est le petit aparté.
C'est bien. Admettons que mes trois aînés.
C'est à 1h40 de TGV.
Tout à fait. Mais ça veut dire qu'ils dorment où le soir? Ils sont logés comment? Enfin, pratique.
Il est bénévole, mais en plus il paye pour être bénévole.
C'est ça la question.
Ça c'est un sujet qui est vraiment géré pour le coup avec les équipes de Tony Estanguet dans le comité d'organisation des Jeux Olympiques. C'est eux qui sont là-dessus. Ils vont lancer cette grande campagne de recrutement de bénévoles. Nous on travaille aussi avec eux sur tout le volet développement durable, engagement de l'économie sociale et solidaire. On en parlait tout à l'heure. Moi j'ai pu avoir la chance de visiter justement le centre d'organisation des JO, qui est un espace vraiment superbe et surtout très durable, qui est fait dans le respect avec des partenaires de l'économie sociale et solidaire, avec des meubles de seconde main, avec un impact carbone vraiment proche de zéro ou en tout cas très faible. Et ça, je trouve que c'est un bel engagement de la part des JO sur ces sujets-là aussi.
Alors Marlène Schiappa, on vous attend beaucoup aussi dans cette émission sur les violences faites aux femmes, l'affaire Julien Bayou, la dernière sortie également d'Elisabeth Badinter. Il y a beaucoup d'auditeurs qui se questionnent d'ailleurs sur ce sujet. Thibaut Texer.
Sur de nombreux sujets, notamment Bastien qui lui nous pose une question. Que pensez-vous de la dernière campagne de communication européenne du programme Erasmus qui montre une petite fille voilée et de fait par rapport aux manifestations qui se passent en ce moment en Iran?
Plusieurs choses, il y a plusieurs sujets en un. D'abord, en ce qui concerne les instances européennes, moi, quand j'étais chargée de ce sujet, j'ai écrit à la commissaire européenne Lena Dalli en charge de ce sujet, avec mon collègue Clément Beaune, qui est alors chargé de l'Europe, pour l'interpeller justement sur cette question et pour lui dire qu'on attend de l'Europe un message plus clair en soutien d'abord des femmes iraniennes qui, au péril de leur vie, manifestent pour avoir le droit d'être cheveux au vent. Donc le fait de voiler une petite fille, et donc là, on ne peut pas nous dire que c'est son choix, c'est une petite fille qui a je ne sais pas quel âge sur cette affiche, mais c'est un enfant. Donc effectivement, je pense qu'on est éloigné des valeurs de liberté, de laïcité, de droits des femmes prônées par l'Union européenne. En tout cas, c'est celle que l'on prône, nous, et c'est notre vision de l'Union européenne. Je sais que ma collègue ministre de l'Europe, Laurence Boone, est mobilisée sur ce sujet, justement pour faire en sorte qu'on avance sur ces questions beaucoup plus fortement. On attend l'Europe, il faut qu'elle soit au rendez-vous pour les Iraniennes et pas seulement.
Et dans un instant, on parlera justement de tout ce climat un petit peu dans le monde politique, les violences faites aux femmes. Et vous répondrez à toutes nos questions. Marlène Schiappa, invitée d'Estelle Midi. On se retrouve dans un instant sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Marlène Schiappa, invitée spéciale d'Estelle Midi, aujourd'hui secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative en France. Merci encore Marlène Schiappa d'être avec nous. On évoque tous les sujets qui font l'actu en ce moment et évidemment, on va parler de ce climat actuellement en politique et des violences faites aux femmes. Tout d'abord, l'affaire Julien Bayou. Est-ce que Julien Bayou, qui était évidemment le patron d'Europe Écologie Les Verts, a raison de se mettre à l'écart après avoir été mis en cause par Sandrine Rousseau?
Ça, honnêtement, c'est une décision personnelle de sa part. Donc, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qu'il lui reprochait dans le détail, même si j'ai compris le principe général. Après, c'est lui. J'ai envie de vous dire, il y a des gens qui savent ce qu'il lui est reproché. Peut-être qu'il le sait. Il dit qu'il ne le sait pas et qu'il se met en retrait le temps qu'il y ait une enquête. Si j'ai bien compris, il n'y a pas de plainte, mais c'est une enquête interne ou journalistique. C'est
Sandrine Rousseau a dit une enquête journalistique.
Voilà.
De qui ?
C'est sa décision.
Bah, elle a dit dans l'émission C'est à vous, une enquête journalistique. Mais Éric Dupond-Moretti.
On n'a jamais su qui.
Est-ce que c'est un mode de fonctionnement, justement, d'avoir comme ça des comités un peu internes et un peu opaques, on ne va pas se mentir, sans trop savoir qui, quoi, comment, et qu'il est obligé de prendre une décision politique par rapport à quelque chose qui ne relève pas de la justice, puisque c'est un comité interne à
Europe. Mais moi, je vais vous dire mon sentiment là-dessus, c'est que moi, je suis profondément féministe depuis l'âge de 15 ans. J'ai été féministe avant de rentrer au gouvernement. J'ai monté des associations, j'ai travaillé sur ces sujets, j'ai été engagée avec la défense des droits des femmes depuis très longtemps. Je suis profondément et sincèrement féministe. Je suis aussi profondément attachée à l'état de droit, en fait. Et je pense aussi que déposer une plainte quand il y a un délit ou un crime, c'est un préalable à la justice. Je pense aussi que faire un article 40 au procureur de la République et un signalement quand on a connaissance ou qu'on est témoin de faits qui sont pénalement répréhensibles, c'est important aussi pour que la justice se prononce. Donc, malheur à moi, je suis nuancée. C'est-à-dire, je suis à la fois radicalement pour défendre les femmes victimes de ces violences dont j'ai fait partie comme beaucoup de femmes. Et dans le même temps, je crois vraiment à la justice et je pense que la justice se rend dans les tribunaux. Ouais, mais... Et c'est pas faire injure à la parole des femmes que de dire ça. Moi, vous savez, j'ai porté 160 mesures pour défendre les femmes, une plateforme de signalement, 4 lois, l'allongement des délais de prescription pour les viols commis sur mineurs, la pénalisation du harcèlement de rue. Vraiment, j'ai fait plus qu'à mon compte pour faire avancer la cause, pour justement qu'on puisse avoir accès à la justice. Mmh. Alors qui est trop lente, qui peut-être ne comprend pas assez les femmes, qui est perfectible, bien évidemment, et beaucoup y travaillent. Mais je crois encore que c'est ce système-là qu'il nous faut utiliser.
Enfin,
j'aimerais réagir. Pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, je fais partie des victimes de PPDA et je suis la présidente d'une association qui s'appelle MeToo Media, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les médias, tous les styles de médias. La justice, nous les victimes de PPDA, c'est la première chose qu'on a fait, c'est aller la voir avant de nous faire entendre dans la presse, puisque la justice ne nous avait pas entendus. Moi, je suis d'accord qu'il faut commencer par porter plainte et c'est ce qu'on a fait. Mais quand on voit qu'il y a seulement 0,6% des cas qui sont punis, on se dit que la justice, elle est défaillante, aussi bien pour ce médecin qu'on a vu tout à l'heure dans les quartiers nord de Marseille, qui a porté plainte contre tous les gens qui ont essayé de l'agresser. À chaque fois, ça a été classé sans suite. Moi, je fais partie des classés sans suite de PPDA. La justice n'a pas su quoi faire de mon témoignage. Et puis, les femmes qui vont porter plainte, quand elles osent y aller, parce qu'il y a tout le poids de la honte, tout le poids de l'opprobre, tout le poids, puis on culpabilise beaucoup. On se dit, mais qu'est-ce que je lui ai dit pour qu'il me viole? Comment je me suis habillée pour qu'il me viole? Qu'est-ce que j'ai fait? Et quand enfin on y va, la plupart des cas sont classés sans suite. On a, à MeToo Media, on a une victime qui n'est pas une victime de PPDA. L'agresseur a reconnu le viol. C'est même lui qui lui a dit, je viens de te violer. Eh ben, ça n'a pas été condamné parce que ça n'a pas été assez caractérisé. Donc moi, je me pose plein de questions sur ça.
Bien sûr, mais d'abord, je suis navrée pour ce que vous avez vécu et à travers vous pour les personnes qui se reconnaîtront aussi dans ce que vous dites, et je pense que c'est important que vous puissiez parler. Moi, bon, attention, quand je dis la justice se rend dans les tribunaux, ça ne veut pas dire les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles ne doivent pas en parler publiquement. Je pense qu'il ne faut pas d'injonction dans un sens comme dans l'autre. Moi, je n'ai pas d'injonction à la plainte, soyons très clairs, mais je dis qu'on ne peut pas demander une sanction hors justice. C'est ça que je dis. Moi, ça m'est déjà arrivé de subir des violences sexistes et sexuelles et de ne pas déposer plainte pour des raisons qui m'appartiennent. Ça m'est arrivé aussi de déposer plainte pour des raisons aussi qui m'appartiennent. Et moi, mon combat, c'est de faire en sorte que chaque personne, femme, enfant et homme aussi au demeurant, qui est victime de ces violences, connaisse ses droits et puisse avoir accès à la justice, qui est perfectible. Et moi, c'est pour ça que je me suis battue, pour allonger les délais de prescription, parce que j'ai rencontré des personnes,
on vous doit beaucoup,
et d'autres, je vous remercie, qui m'ont dit, écoutez, nous, les délais de prescription, ils ne sont pas assez allongés.
Bien sûr.
Le temps qu'on devienne adulte, qu'on construise notre propre vie, qu'on se sente la force de pouvoir aller affronter la personne, parfois aussi se mettre soi-même en danger vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son milieu d'origine, le temps qu'on puisse se construire sur tout ça, mais en fait, la prescription arrive. C'est pour ça qu'on l'a allongé de 10 ans. Aujourd'hui, pour les viols commis quand la personne était mineure, il y a 30 ans après la majorité pour aller déposer plainte. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est faire savoir comment on peut déposer plainte, mieux former les policiers, les gendarmes, c'est le travail que j'ai fait au ministère de l'Intérieur et qui continue à se faire, et mieux former la justice. Je suis complètement d'accord avec vous pour qu'il y ait les principes de l'état de droit respectés, mais qu'à la fin, les violeurs soient condamnés, bien évidemment.
Oui. Alors, vous dites, Marlène Schiappa, je suis féministe. Aujourd'hui, il y a plusieurs courants de féminisme en France. Alors, oui. On a bien vu Sandrine Rousseau, on a vu Elisabeth Badinter, évidemment, grande figure du féminisme. Hier, Elisabeth Badinter qui appelait les femmes à prendre leurs responsabilités, les femmes victimes de viols, et à aller porter plainte. En fait, ce qu'elle dit, c'est que le tribunal doit être celui de la justice et pas celui des médias. Vous êtes plutôt Sandrine Rousseau ou plutôt Elisabeth Badinter?
Je suis plutôt Marlène Schiappa.
Oui, d'accord.
Voilà. Elle a dit très exactement 10 ans de prescription pour le viol, c'est déjà beaucoup, alors que c'est 20 ans en fait, depuis février 2007. Je comprends qu'on ne puisse pas en parler, même des années, mais à un moment, il faut prendre ses responsabilités et porter plainte. Et moi, j'avoue que je fais partie des gens que ça a choqué en me disant, mais ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est que le trauma, on ne sait pas ce que c'est que le viol, on ne sait pas ce que c'est que le poids de la honte, et je ne sais pas comment ça vous fait réagir.
Elle dit c'est
que
ça ne doit pas être dans les médias.
Je
sais pas ça qu'elle a dit là.
J'ai réfléchi depuis des années et j'ai écrit sur le mouvement féministe. Moi, je suis toujours très triste quand le mouvement féministe se déchire. Et j'ai pas envie, et Dieu sait si j'ai des désaccords très profonds avec Sandrine Rousseau de fond et de forme, mais j'ai pas du tout envie de l'attaquer à Dominem ou de me mêler au cœur des gens qui l'attaquent et qui la prennent pour cible sur ces sujets. J'étais aussi un peu écœurée de voir le lynchage à l'encontre d'Elisabeth Badinter sur les réseaux sociaux qu'on m'a rapporté suite à ses propos. C'est quand même une grande féministe qui a fait avancer la réflexion sur l'instinct maternel, sur l'égalité entre les femmes et les hommes. On peut être en désaccord avec des choses qu'elle dit. Moi, il y a des choses que dit Elisabeth Badinter avec lesquelles je ne suis pas d'accord. C'est pas pour autant que je vais aller l'insulter sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on perd un peu la nuance et on perd un peu la profondeur du débat. Moi, dans toutes les associations féministes dans lesquelles j'ai milité, il y avait toujours du débat justement pour savoir est-ce qu'on est pour l'imprescriptibilité ou pas. Et on débat entre nous avec des experts, avec des personnes qui ont été victimes, avec des hommes aussi qui sont nos alliés pour beaucoup dans cette cause. Et je crois que c'est important d'avoir ces débats, cette nuance, cette profondeur et pas simplement de se jeter des insultes partout à la figure. C'est pas comme ça que je conçois le débat public. En
tout cas. Est-ce que vous aviez envisagé que votre combat pouvait aller aussi loin dans la façon de l'exprimer, à l'image de ce que fait Sandrine Rousseau, où on a le sentiment que c'est pratiquement impossible de la suivre au fond. Alors vous dites avoir beaucoup de désaccords, mais pas vouloir l'attaquer. Mais à un moment, si vous voulez défendre vos idées, vous qui apparaissez finalement une sorte de nuance entre Elisabeth Badinter et elle. Forcément, il faut dire qu'elle est dans un extrémisme insupportable.
Moi, je veux pas m'exprimer en contre, je veux m'exprimer en pour. En fait, je veux pas parler des gens. Vous savez, c'est Eleanor Roosevelt qui disait les petits esprits parlent des gens, les esprits moyens parlent des événements, les grands esprits parlent des idées. J'ai vocation à essayer de lutter contre moi-même pour pas parler des gens et pour parler des idées et expliquer un petit peu quelles sont mes idées. C'est ce que je fais à l'instant. Et je veux pas dire que je serai moins féministe que Sandrine Rousseau ou moins pour l'état de droit qu'Elisabeth Badinter. Je suis radicalement féministe. Ça veut dire radicalement pour l'égalité femmes-hommes et aussi radicalement pour l'état de droit qui doit être amélioré, bien sûr, et c'est ce à quoi on travaille. Et moi, j'ai envie de construire et de me dire à la fois quel message les victimes de violences entendent quand on a ce genre de débat, quel accès à leurs droits elles ont, en quoi leur accès aux droits est renforcé et comment on construit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de détruire que de construire et de construire un système dans lequel la justice puisse avoir toute sa place. C'est important. Et ça ne veut pas dire pas de sanctions par ailleurs. Par exemple, dans une entreprise, quand quelqu'un a harcelé moralement ou sexuellement un collègue ou un subordonné...
Non, on n'attend pas la justice, il est viré tout de suite.
Bah, exactement, il y a une décision qui est prise dans l'entreprise et il y a une décision qui est prise par la justice. Mais elle est prise sur la base de normes, sur la base... Ça ne peut pas être à la tête du client, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, ça me semble important.
Alors, il y a beaucoup d'affaires actuellement. Il y a eu l'affaire Quatennens, hein, qui a reconnu Adrien Quatennens avoir giflé sa femme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, comme beaucoup, qu'il doit démissionner de son mandat de député?
C'est une question difficile et qui, là aussi, je pense, lui appartient. Si vous voulez, moi, je crois que ce qui est...
Bah, pas que, parce que c'est un délit qui est avéré.
Alors, la démission... En fait, aujourd'hui, si on veut regarder le droit, aujourd'hui, il n'y a rien qui permette de dire qu'une ministre va décider qu'un député doit quitter son poste. Il y a une séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Et donc, moi, j'ai aucun levier en tant que ministre pour dire tel ou tel député doit quitter son poste. Néanmoins, j'ai toujours dit que quelqu'un qui était condamné pour violence conjugale, y compris quand ça concernait mon propre parti, puisqu'on avait un député dans ce cas-là dans mon parti, il n'a rien à faire pour moi à l'Assemblée nationale. On ne peut pas voter les lois pour l'ensemble de la population quand soi-même on a été condamné, d'ailleurs pour quelque motif que ce soit, c'est mon point de vue. Ensuite, Adrien Quatennens, il n'a pas encore été condamné.
Mais il a reconnu
les faits. Ce qui m'a gênée profondément dans cette affaire, c'est que dans un premier temps, d'ailleurs, je n'ai pas commenté, je n'ai pas tweeté, je ne suis pas allée sur les plateaux de télévision, parce que je me suis dit, c'est à la justice de dire ce qu'il en est. J'ai entendu aussi que son épouse ou son ex-épouse disait qu'elle ne voulait pas qu'on en parle. J'étais très gênée par rapport à cette demande de sa part.
Elle a posé une main courante.
Respecter la parole des femmes, c'est aussi respecter leur demande de ne pas en parler. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais j'étais ulcérée de voir défiler sur les plateaux de télévision des membres de la France Insoumise qui n'ont rendu service ni à Adrien Quatennens ni à la cause des femmes en disant une gifle, c'est pas grave. Si c'est qu'une fois par mois, ça va. Il prend sur lui. Enfin, des choses qu'on a entendues quand même en propos ou en sous-entendu. Qui m'ont choqué et qui ont d'ailleurs beaucoup choqué aussi des femmes.
Donc il doit démissionner si on suit votre raisonnement, puisqu'il a en plus, comme disait Estelle, reconnu les faits.
Non mais...
Il n'a pas été condamné, c'est ça.
Il y a une question qui se pose. Je ne vous dis pas que j'ai la réponse à moi toute seule. Moi, je ne suis pas totalitaire et je n'entends pas dicter aux gens leur conduite. J'entends poser des débats et renforcer la loi et les politiques publiques. Sur ce sujet, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait? Et on ne doit pas se poser la question en termes de « c'est un opposant politique, donc je veux sa démission ». On doit se poser la question en termes de principe. Qu'est-ce qu'on ferait si c'était quelqu'un du Rassemblement national? Qu'est-ce qu'on ferait si c'était quelqu'un de la majorité? Et je pense que c'est comme cela qu'on fait avancer cette cause. Donc ça, je crois que c'est aussi à l'Assemblée nationale de se poser la question. Mais je sais que les députés femmes et hommes sont mobilisés sur ce sujet parce que ça jette l'opprobre aussi sur la classe politique.
Thierry Moreau.
La lutte contre la violence faite aux femmes, ça demande des moyens. Alors j'ai envie de vous demander, à quand donnerez-vous le milliard d'euros que réclament depuis des années les associations de lutte contre les violences faites aux femmes ? En Espagne, ça a fonctionné. Alors vous avez parlé de tous les progrès qui ont été faits à votre initiative, pas de souci, mais elles réclament un milliard. Est-ce que vous êtes prêt à leur donner, même si l'État aujourd'hui est très endetté ?
Alors plusieurs choses. D'abord, moi je suis ministre de la vie associative. Rappeler le rôle important des associations dans ce champ. Et d'ailleurs,
est-ce que vous seriez pour que le gouvernement donne ce milliard réclamé par les associations ?
Moi je vais vous répondre sur la question du milliard. D'abord, je veux saluer le travail mené par Isabelle Rome, ma collègue qui est une ancienne magistrate et qui s'occupe de ces questions de violence conjugale avec beaucoup de volontarisme et fondée sur son expérience de terrain. Sur le milliard, on l'a dépassé en réalité en interministériel. En Espagne, et j'ai bien étudié le sujet depuis des années, d'abord l'Espagne a pris le sujet à bras-le-corps depuis 2004. Nous, on a commencé en 2017. Donc c'est vrai que l'Espagne a obtenu des résultats, mais en commençant bien longtemps après la France. Souvenez-vous, en 2017, quand je parle de féminicide pour un certain nombre de sujets, eh bien, il y a des débats pour dire ce mot n'existe pas, on l'invente, etc. Donc le milliard, il est consacré en Espagne sur 5 ans sur des politiques interministérielles, c'est-à-dire par exemple également la place des femmes dans le sport, etc. En France, c'est la même chose. On a dépassé le milliard et année après année, il y a eu constamment des augmentations de budget. Cette année encore, il y a une augmentation de budget sur l'égalité femmes-hommes.
Alors, je voudrais qu'on vienne sur une dernière image. C'était hier, un mannequin Constance Jablonski est apparu enceinte, en fait, lors du défilé Etam. Voilà, c'est une nouveauté. Il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé ça. C'était à l'occasion d'un défilé de lingerie que la Griffe présentait dans le jardin du musée des archives. Est-ce que pour vous, ça aussi, c'est une avancée, quoi ?
D'abord, c'est un beau message. Oui. On la félicite. C'est un très beau clin d'œil. Et ensuite, oui, je trouve que la Fashion Week, c'est un très beau message quand elle s'ouvre à davantage de diversité. Là, on a vu cette mannequin enceinte qui est très connue par ailleurs. On a vu aussi Naomi Jackson défiler, qui est une mannequin qui correspond pas aux critères habituels de beauté un peu normés qu'on découvre dans la mode. Donc, je trouve ça bien quand ça envoie des messages aux femmes et qu'on peut aussi s'identifier et aussi aussi normaliser un petit peu le ventre des femmes enceintes.
Bah, merci beaucoup en tout cas, non, Marlène Schiappa, d'avoir été notre invitée dans Estelle
Midi. Merci à vous.
Merci beaucoup. Dans un instant, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, les immanquables. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi, il est 14h45 sur RMC et on est toujours avec Thibaut Texer, Daniel Riolo, Emmanuel Dancourt et Thierry Moreau. Dans un instant, les immanquables, mais tout de suite, on va prendre en ligne Clément qui nous appelle de Paris. Bonjour Clément.
Bonjour.
Et Clément, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. La première bonne nouvelle, Clément, c'est que vous venez de gagner un maillot des Bleus.
Eh ben, wow. Super, super. Merci à vous.
Alors bien sûr, Clément, vous appelez pour ce maillot, vous êtes heureux et tout, bien sûr. Mais, vous appelez surtout pour le jeu qui vous permettra de gagner peut-être vos places pour le match entre la Tunisie et la France le 30 novembre lors de la Coupe du Monde au Qatar. Vous allez, Clément, être notre représentant. Clément va représenter Estelle Midi lors de ce grand concours. Clément, vous allez devoir être fort, vous allez rester hors antenne, on va vous reprendre, on va vous poser une question. Et si jamais vous gagnez notre jeu face à toutes les autres émissions d'RMC, eh bien on vous reprendra demain à cette même heure dans l'émission. Et ça voudra dire, Clément, que vous avez gagné les deux places pour Tunisie-France. Vous êtes prêt?
Super, espérons que ça va se passer.
Bah ouais, soyez fort. Clément, demain, on va vous poser quelques questions hors antenne. Et merci de bien représenter Estelle Midi. Bonne chance à vous, Clément. Allez, on passe tout de suite.
Estelle Midi.
Les immanquables.
Oui, on passe tout de suite aux immanquables et on va rester dans le foot avec le maillot du jour.
Et c'est celui du Danemark. L'équipementier Hummel a dévoilé les nouvelles tuniques de l'équipe danoise pour la Coupe du Monde au Qatar. Un maillot tout en sobriété, rouge pour le domicile, blanc pour l'extérieur, jusque-là rien d'anormal. Sauf que le logo de la marque et le blason danois y ont été atténués, on ne les voit presque pas. Objectif, protester contre le non-respect des droits de l'homme dans le pays organisateur du Mondial. Nous ne souhaitons pas être visibles dans un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes, explique l'équipe. Entier. Un troisième maillot a été créé pour l'occasion. Noir, disent-ils, comme la couleur du deuil pour rappeler la mort d'ouvriers sur le chantier des stades.
C'est une belle initiative, ça, Emmanuel Dancourt ? Ou c'est un peu démago ?
Bah, j'ai envie de dire les deux. Bravo à Hummel qui se fait une pub d'enfer.
S'ils se font une pub.
Le maillot est beau. Je peux finir ? Merci. Je disais donc, merci à Hummel qui se fait une pub hallucinante tout en se parant du sens, des responsabilités et de l'honneur. Moi, je trouve qu'ils ont raison de le faire. Je trouve ça beau. Évidemment que ça leur fait de la pub. C'est une manière de dénoncer les choses. Et c'est très bien fait, leur communiqué de presse. Une manière de dénoncer les choses avec des maillots qui seront donc sobres. On verra la marque, mais en fait, on la verra pas. Et bien sûr qu'ils en parlent. Ils ont raison de le faire, ils ont raison d'en parler, puis ils ont raison de le faire aussi. Moi, qui suis pas une fanatique du sport et qui suis gênée par rapport à cette histoire
de
Qatar.
Vous allez acheter le maillot?
Je me demande, sérieux, je le trouve magnifique, ce maillot. Juste pour les soutenir, de porter le maillot, ne serait-ce qu'ici à l'antenne,
Pensez qu'on porte le maillot du Danemark, vous allez soutenir quoi que ce soit?
Soutenir leur prise de position. Ah oui, complètement même.
Ah oui. Parce que la grosse prise de position, ça aurait été de ne pas aller au Mondial, vous voyez.
Je suis tellement d'accord. On l'a plusieurs fois dit ici, mais à partir du moment où finalement tout le monde y va, tout le monde rentre dans le système et tout ça, comment on fait de la résistance? Ça peut être une manière de faire de la résistance.
De la pub.
Et alors? On n'est pas dupes.
Si l'argent qui est récupéré par la vente des maillots, on me dit qu'elle est donnée à des associations.
Aux familles qui ont perdu quelqu'un là-bas, qui ont construit des stades.
On est sûr de ça?
Non, on n'est pas sûr, mais
si c'est pour que l'oseille rentre dans les caisses du mail, qui a fait un maillot qui est très beau, avec on voit pas le logo, mais on le voit quand même.
Oui.
Parce que justement, c'est un style de le mettre de cette façon-là.
C'est rouge sur rouge.
Ça peut justement lui donner une allure un petit peu plus.
Mais c'est mieux que rien. Au moins, ils font quelque chose.
S'il n'y a pas d'opération commerciale derrière, oui, pourquoi pas. Si ça peut servir à faire passer un message. Je suis pas contre. J'aimerais être persuadé que derrière il y a aucune opération commerciale.
Tu vas te renseigner puis tu vas nous dire.
S'il y a pas d'opération commerciale derrière.
Jamais ils avaient reversé l'argent, les bénéfices de ce maillot à deux associations, ça aurait été en gros sur le communiqué de presse.
Peut-être qu'ils le feront plus tard.
Pour l'instant, ils le mettent en vente et puis après ils voient si ça marche et si c'est acheté partout dans le monde, s'ils font un carton avec le maillot. J'espère qu'ils donneront l'argent à Amnesty International.
C'est là qu'on verra la sincérité de la démarche.
Mais ça montre au moins une chose, c'est qu'entre le boycott pur et simple et le fait d'y aller sans rien dire, il y a des alternatives.
Alors,
je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'on appelle du marketing éthique. C'est-à-dire
c'est
du marketing plutôt intelligent qui va évidemment donner une bonne image à la marque. N'oubliez pas que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont très sensibles à l'éthique des marques. Donc voilà. Mais au final, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses. Où va cet argent? Je suis d'accord avec toi.
On va rester dans le foot avec le match du jour.
En dépit des polémiques, l'équipe de l'Assemblée nationale affrontait hier soir le Variété Football Club sans surprise. C'est l'équipe composée de stars et d'anciens internationaux qui s'est imposée 9-2. Rencontre marquée par la blessure tout de même de Julien Odoul, sorti en fauteuil roulant. Le député RN souffre d'une rupture du tendon rotulien, match caritatif tout de même qui a rapporté 35 000 euros au profit de l'association e-enfance qui lutte contre le harcèlement en ligne.
Bah ouais, putain, il pourrait dire j'ai pas fait carrière, je me suis fait les croiser.
Il sera pas à la Coupe du Monde.
Oh putain, ouais, sacrée blessure quand même.
C'est encore un coup dur pour Didier Deschamps, ça, dites donc. Non, mais enfin, voilà.
Sur le sujet quand même.
Mais justement,
je sais que vous en avez parlé cette semaine, mais pour le plaisir, permettez-moi quand même de souligner j'essaie de pas dire un mot qu'il faut pas dire.
Oui, ne dis pas.
Le sectarisme, l'obscurantisme des députés de gauche qui n'ont pas voulu participer.
Aurore Berger a appelé les députés Renaissance à faire la même chose.
Tout de même, parce que tous
autant qu'ils sont, qui comme ça traitent 46% de Français qui ont envoyé des députés RN à l'Assemblée nationale, qui les traitent de sous-citoyens.
Surtout que Louis Ayot, en ne voulant pas les fréquenter. Surtout que Louis Ayot et Alexis Corbière cohabitaient très très bien dans les vestiaires pour l'équipe de rugby. Donc voilà. Ce qui est valable pour le rugby n'est pas valable pour le foot.
Donc sorte de coup de pub qui n'a aucun sens.
On perd tout l'esprit du jeu. Moi, il se trouve que j'ai animé une rencontre, c'était à Auxerre, c'était du temps de
Giroud.
Giroud, bien sûr. Bernadette Chirac était encore de ce monde, c'est pour les pièces.
Bah, elle est encore, elle n'est pas morte. Hein, oui.
L'absus.
On nous a fait une Joe Biden à l'envers.
Disons qu'elle était encore très active pour les pièces jaunes, pardon. Et donc, il y a eu ce match caritatif avec les anciens de la Coupe du Monde 98, une bonne partie de l'équipe contre des gens du secteur d'Auxerre. Ils sont morts de rire, les garçons, c'est pas grave, je peux dire ce que je veux, pendant ce temps-là, j'ai la parole. Et n'oublions pas le côté caritatif de tout ça, ça ramène beaucoup d'argent.
Dis pas trop ce que tu veux
quand même,
parce qu'on sait jamais.
Alors ?
Non mais c'est bon, personne n'a écouté ce que j'ai dit.
Non, c'est vrai.
Si, on en a bien écouté.
Mais on embrasse Bernadette.
Oui. Voilà. Et bon. Bah, on va passer à la gourde du jour, donc c'est pas celle de Manel Dancroux.
Ah bon,
il y a mieux. Elle nous vient des États-Unis, elle est même de Joe Biden, qui salue lors d'une prise de parole sa lutte contre l'obésité, sur la lutte contre l'obésité, les parlementaires impliqués sur le sujet. Parmi eux, l'ancienne membre de la Chambre des représentants, Jackie Walorski, et le président des États-Unis de s'interroger. Mais où est Jackie, la cherchant du regard, sauf que l'élu républicaine?
Elle est décédée. Est complètement free.
Oui. Et évidemment, elle n'était pas là, hein, puisqu'elle est décédée. Et donc, ça a relancé.
Encore, ça aurait pu être Jackie Kennedy. Non, mais on s'en sort pas si mal.
Elle n'était pas là non plus. Et ça a relancé le débat, bien sûr, sur l'âge du président. Non, mais enfin, c'est quand même très embêtant.
Ah non, c'est pas l'âge le problème. Hein.
Oui, enfin, c'est ça. C'est oui,
c'est bah, ça, c'est le problème. C'est pas l'âge.
Oui, enfin, c'est lié.
La Maison Blanche, en tout cas, se défend. Elle dit.
Ah oui, j'ai entendu la défense, c'est pire.
Biden y pensait très fort. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien de troublant.
Il pensait tellement à elle qu'en fait, il voulait dire Où es-tu, je te cherche sur cette terre ou dans l'au-delà.
Mais enfin, quelque part, on peut quand même s'inquiéter, Thierry Moreau.
Ah, mais on peut s'inquiéter.
C'est pas la première bourde.
Mais ça, c'est un grand sujet des gouvernants qui sont malades. Il y a eu un bouquin dans les années 70 qui s'appelait Ces malades qui nous gouvernent, qui racontait tous les chefs d'État qui ont été séniles ou malades. On sait à la fin de son deuxième septennat que le François Mitterrand n'avait que quelques heures de lucidité et qu'il était allongé tout le reste de la journée à la fin de son deuxième septennat. On a un problème avec les présidents et les élus aux plus hautes fonctions et qui n'assument pas à un moment une sénilité, une maladie. Ça, c'est un vrai problème de nos démocraties.
Enfin, on en a encore pour un petit bout de temps là, avec Joe Biden.
C'est pour ça que je dis on a un problème avec eux.
Espérons que les conseillers tiennent tous les boutons.
Il y a quand même une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Après, les États-Unis sont quand même impliqués. Enfin, excusez-moi, c'est quand même très gênant.
Après, il y a une administration qui fonctionne derrière.
Bah, oui.
Je dirais.
Oui.
Sans que lui ait besoin de.
Misons sur les conseillers.
Au moment d'appuyer.
Mais moi, si je suis Poutine, je vois Biden dans cet état.
Non, mais c'est plus qu'une boulette. On est d'accord. Mais il est connu pour ça. C'est pas nouveau, ça. C'est pas parce qu'il a l'âge.
Il est connu, Emmanuel. Il est connu qu'il est free.
Ça date déjà d'il y a quelques années. Non, mais toi, tu nous envoies Bernadette Chirac, je veux dire, au
Merci
cimetière.
Mais
je veux dire, tu n'es pas présidente des États-Unis, donc ça, c'est moins gênant.
Oui,
là, c'est quand même. Enfin, on parle quand même du président des États-Unis qui ne sait plus ce qu'il dit. Donc, ça me semble extrêmement problématique.
Non, mais c'est inquiétant.
Est-ce que ça ne nous arrive pas à nous aussi de faire des boulettes, la preuve
moi, Emmanuel, ça n'a rien à voir.
Mais ça arrive à tout le monde. Sauf que lui, il y a des caméras devant. Voilà.
Mais c'est pas que les caméras, c'est qu'il a quand même.
Mais le problème, c'est que c'est pas une boulette. C'est pas une boulette. Il faut pas dire que c'est une boulette. C'est juste qu'il est sénile.
Est-il capable de gouverner?
C'est la question. Voilà, c'est ça la question. Thierry a raison. C'est pas une boulette.
Son état de santé.
Toi, c'est une boulette quand t'as parlé de Bernadette.
L'état de santé du président de la République, il est sculpté, il est regardé à la loupe. Oui. Évidemment que s'il y a un problème, à un moment, ils interviendront. Enfin, mais il reste que 2 ans, ça va aller.
Plus que 2 ans, c'est encore 2 ans.
Encore 2 ans.
Bon, il y en a, il lui reste 3 heures. C'est Vincent Moscato, le super Moscato Show. Salut Vincent. Ça va Vincent?
Lui il est pas sénile.
Ça va?
Non. Ah non. Non, il est bien lui.
Ah non.
Ça va Daniel?
Oui. Bonjour, bon, bon allez.
Salut Vincent.
Ah, c'est toi qui es en retard, tu m'as dit.
Eh oui. Ah,
mais ça c'est le monde à la mer.
Elle m'a envoyé Bernadette Chirac.
Finalement, vous êtes habitué au VAR. Est-ce que vous êtes habitué au VAR?
Pas encore.
À la vidéo.
À la vidéo, oui, pardon.
Je contesterai toute ma vie, Vincent. Vie, ouais. Ce sera mon combat.
Tu es un conservateur. Tu veux garder l'ancienne.
Moi, je suis assez court. Hein.
Les gens finiront par changer et me rejoindre.
Les affaires autour du PSG, Mbappé qui n'est pas bien, le président qui a quelques petites affaires. Comme peut-il faire une saison normale? Pour la question. Et puis, notre débat
Société. Il y a Christophe Galtier. Vous avez pas entendu hier la
Oula, oula, sur Galtier, quand ça va sauter, ça va sauter.
Ah, bah oui, là, c'est un peu embêtant, là.
Et puis, un débat Société, bien entendu, je pense que ça va te plaire. Oui. Les navigateurs sont-ils des hommes déconstruits? Ça sera notre débat sur la fin. Bien sûr, on finira par ça. Peut-être on parlera de toi, Estelle, je sais pas encore, mais.
Ne trouble pas les vagues de bonheur, s'il te plaît.
Bon, super. Le super. Oui, allez, bon. Merci. Le super Moscato Show dans un instant sur RMC. Oui, ça va. Merci de t'en inquiéter. Nous, on revient demain, midi 15h, dans Estelle Midi. Salut à tous.
C'est pas fini la semaine.
Non, et bonne journée sur RMC. Ouais.
RMC, 15h-18h, le super Moscato Show.